إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on continue donc ce soir notre étude du livre Les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu la semaine dernière les quatre choses qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et qui sont la science, sa mise en pratique, le fait d'y inviter les gens et la patience face aux préjudices dans cela. Ces quatre choses, elles sont donc obligatoires pour nous. Et comme on l'a vu, l'auteur, rahimahullah, il n'a pas obligé cela de lui-même, mais il a tiré cela d'une sourate immense du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est la sourate Al-Asr, la sourate, le temps, comme nous allons le voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Il a donc dit, rahimahullah, « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ » Il dit, rahimahullah, et la preuve, c'est-à-dire la preuve concernant l'obligation des quatre choses qu'il a mentionnées précédemment. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'auteur, rahimahullah, donc en plus de nous enseigner cette science, il nous enseigne également ici la manière de transmettre cette science, qui est de lier chaque question à sa preuve, ou bien tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tirée de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il a mentionné une sourate immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la sourate le temps. Il a commencé par la basmala, en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Et les savants ont expliqué qu'il a fait cela car il a mentionné la sourate dans son intégralité. Sinon, ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu ta'ala anhum et de ceux venus après eux est qu'il n'est pas connu de commencer, lorsqu'on mentionne un verset pour mentionner une preuve ou qu'on mentionne un hadith, de commencer par dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim ». Ceci est seulement lors de la récitation du Coran. Mais lorsque tu cites un verset pour mentionner une preuve, ce n'est pas nécessaire. Et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il a mentionné la basmala. Il a dit « Bismillahir Rahmanir Rahim » car il a mentionné la sourate dans son intégralité. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a donc juré par le temps. Le temps qui est une créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi sa création. Quant à nous, nous n'avons pas le droit de jurer si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis pour nous de jurer par autre que lui. Tu ne dois pas jurer par ton père, tu ne dois pas jurer par ta mère, tu ne dois pas jurer par la Kaaba, ni par autre chose parmi les créatures, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah » a certes mécru ou associé. Et dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut jurer, alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc juré ici par le temps, qui est une de ses créatures, car lui jure par ce qu'il veut. Mais lorsqu'il jure, Il ne jure que par une chose importante, une chose faisant partie de ses signes, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que le temps et l'alternance du jour et de la nuit, de manière précise et continue, font partie des plus grands signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on le verra par la suite, incha'Allah, lors de l'étude du premier fondement. Et le jour et la nuit, ils font partie du temps durant lequel le serviteur a l'opportunité d'accomplir des œuvres pieuses. Le jour et la nuit, ce sont donc des occasions immenses pour nous. Afin de quoi ? Afin de multiplier les œuvres pieuses. Et chaque jour en plus pour toi dans ce bas monde, c'est une occasion de plus pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, la plupart des gens sont dans l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala a donc juré par le temps que l'homme est certes en perdition, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'ensemble des enfants d'Adam alayhi salam, hommes et femmes, riches et pauvres, tous sont en perdition. Ils courent à leur perte. S'ils perdent ce temps précieux et l'utilisent dans ce qui leur nuit, comme le fait de le passer dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou encore dans les péchés. Beaucoup de gens, ils ne considèrent pas la valeur du temps. Ils ne le considèrent pas à sa juste valeur, au point de trouver le temps long. D'autres vont même jusqu'à dire « on veut tuer le temps, on veut casser le temps ». Ils passent alors leur temps dans des futilités et autres distractions, ou pire encore, dans les péchés, et tout ça dans le but de quoi ? De casser le temps, comme ils disent. Et en plus, les causes pour casser le temps, elles sont malheureusement nombreuses à notre époque, et très accessibles. Et parmi les plus grandes causes, ce petit appareil que l'on a tous entre nos mains, le téléphone portable, avec ce qu'il comprend comme méfait s'il n'est pas utilisé dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce temps que les gens cassent, comme ils disent, c'est du temps perdu. Et c'est du temps qui sera une cause de leur perte et une cause de regret au jour de la résurrection. Alors que si tu préserves ton temps, que tu veilles à ne pas perdre ton temps et à ne l'utiliser que dans le bien et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci sera la cause de quoi ? Ce sera la cause de ton bonheur, ici-bas ainsi que dans l'au-delà, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc juré dans cette sourate que tous les enfants d'Adam sont en perdition, à l'exception de qui ? À l'exception de ceux qui se sont parés de quatre caractéristiques. Et quelles sont ces caractéristiques ? Il a dit subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sauf ceux qui croient, ceci est la preuve de la science, car il n'est pas possible d'avoir la foi sans avoir un minimum de savoir. Il n'est pas possible d'avoir la foi sans la science, qui est, comme l'a défini l'auteur, rahimahullah, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Accomplissent les œuvres pieuses, c'est-à-dire qu'ils accomplissent des œuvres pieuses parmi les obligations et les choses recommandées. Ils profitent donc de leur temps en faisant quoi ? En faisant ce qui leur profite pour leur vie mondaine ainsi que pour leur religion. Car même tes œuvres mondaines, elles contiennent un bien et peuvent en découler des récompenses si tu as pour but qu'elles soient pour toi une aide à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors te profiteront d'autant plus les œuvres que tu accomplis pour l'au-delà parmi les œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les adorations. Et le plus important, c'est que tu ne perds pas ton temps, mais que tu l'utilises dans ce qui est profitable pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et il est important ici de préciser une chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que ses œuvres, elles sont comment ? Elles sont pieuses. Et il n'a pas dit, sauf ceux qui croient et œuvrent, mais il a dit, et accomplissent les œuvres comment ? Les œuvres pieuses. On comprend donc qu'il est possible qu'une personne œuvre, mais que ses œuvres ne soient pas pieuses. Il est possible que deux hommes prient dans le même rang, mais la différence entre leurs prières est la même qu'entre les cieux et la terre. Alors comment faire pour que ton œuvre soit pieuse ? Tu dois savoir que ton œuvre ne peut être pieuse qu'en remplissant deux conditions. La première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité, le fait que tu voues ton œuvre sincèrement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois accomplir cette œuvre uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour son noble visage subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas accomplir cette œuvre par ostentation. Tu ne dois pas accomplir cette œuvre pour rechercher les éloges des gens. Tu ne dois pas accomplir cette œuvre par peur d'être blâmé. Mais tu dois faire cette œuvre uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la première condition pour que ton œuvre soit pieuse. La deuxième, c'est la conformité. La conformité à quoi ? La conformité à la législation. La conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu accomplis cette œuvre de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait. Et une œuvre qu'il n'a pas accomplie et que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum n'a pas accompli ou n'a pas fait de cette manière, alors ce ne peut pas être une œuvre pieuse. Celui qui ne respecte pas la première condition, l'ikhlas, la sincérité, il tombe alors dans le shirk, dans l'association majeure ou mineure. Et celui qui ne respecte pas la deuxième condition, il tombe alors dans la bid'a, dans l'innovation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de faire que nos œuvres soient pieuses, sincèrement vouées à lui et conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La troisième caractéristique de laquelle doit se parer celui qui veut être sauvé de la perdition, elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq, s'enjoigne mutuellement la vérité, c'est-à-dire qu'ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils enseignent la science profitable, ils propagent la science et le bien parmi les gens et ils sont ainsi des prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prêche, il n'est pas limité à ses assises de science. Mais le prêche, il comprend également l'appel de tes proches à la vérité par le bon conseil, par la bonne parole et aussi par le bon comportement. Et ce en montrant l'exemple à travers tes actes. Le musulman, il se doit d'être une personne exemplaire dans la société. Il doit mettre en pratique les choses qu'il apprend afin d'être un exemple pour les gens. Et ainsi, il appellera à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. Pourquoi ? Car il va montrer à travers son comportement le bienfait de l'islam et le mérite de cette religion. Et il en est de même avec tes proches, avec tes parents, avec ton épouse, avec tes enfants. Tu dois leur transmettre la science que tu apprends et tu dois aussi être un modèle exemplaire pour eux. Et tes paroles, elles doivent être en accord avec tes actes. Tes paroles, elles doivent être en accord avec tes actes. Et ceci est très important. La quatrième caractéristique de laquelle doit se parer celui qui veut être sauvé de la perdition, elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement l'endurance, c'est-à-dire qu'ils patientent, et ils s'enjoignent entre eux la patience face à tout préjudice qui les atteint sur cette voie, c'est-à-dire la voie de la science, la voie de la mise en pratique de la science et la voie de l'appel à la science et sa mise en pratique. Et la patience, elle est de trois sortes. La première, c'est la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, c'est la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, tu dois patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'âme, elle incite à la paresse et l'âme, elle aime le repos. Tu dois donc la faire patienter dans l'obéissance, la faire patienter dans l'accomplissement de la prière, la faire patienter lors du jeûne, la faire patienter quant au fait de se vêtir, par exemple, du voile légiféré pour la femme. Même si l'âme a du mal à accomplir certaines choses, tu dois la contraindre à la patience. Tu dois la contraindre à la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu dois patienter face aux interdits d'Allah. Car l'âme, elle souhaite accomplir ses désirs. Et elle a un penchant pour tout ce qui est interdit. Tu dois donc la retenir et t'abstenir de commettre ces interdits. Et ceci nécessite de toi quoi? Ceci nécessite de la patience. Car ce n'est pas une affaire simple d'empêcher à l'âme d'accomplir ce qu'elle convoite comme désir interdit. Et celui qui n'a pas de patience, celui qui n'a pas de patience, alors son âme, elle prend le dessus sur lui et elle le plonge dans les interdits. Et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on implore l'aide et le pardon. Troisièmement, tu dois patienter face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les décrets d'Allah qui peuvent atteindre comme les différentes épreuves et les calamités que subit l'homme dans ce bas monde, à l'exemple de la mort d'un proche, à l'exemple de la maladie, de la perte d'argent ou toute autre épreuve que subit l'homme dans ce bas monde. Il est obligatoire que tu patientes face aux décrets d'Allah. Et la patience, elle signifie ici que tu ne t'énerves pas lorsque tu es touché par l'épreuve. Tu n'es pas agacé par celle-ci. Tu retiens ta langue de tout ce qui s'oppose à la patience, comme le fait de dire « Pourquoi moi ? Pourquoi m'arrive-t-il cela ? Je ne mérite pas cela ?» ou toute autre parole semblable qui exprime le rejet du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mécontentement. De la même manière, tu retiens tes membres de tout ce qui s'oppose à la patience, comme le fait de te frapper le visage, ou encore de déchirer tes vêtements, ou encore de casser des objets qui se trouvent autour de toi, ou de taper contre les murs, ou tout autre acte semblable. Si tu fais cela, c'est que tu n'es pas patient face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc être patient face à ces épreuves, et tu dois savoir que c'est un test pour toi, ou alors un châtiment suite à des péchés que tu as commis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 30 de Surat al-Shura, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire que tout malheur qui nous atteint ici-bas, il est dû à ce que nos mains ont commis, au péché que nous nous a commis. Et médite sur sa parole, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire que les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, ils sont plus nombreux que ceux pour lesquels il nous châtie, et il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Ainsi, lorsque le musulman est atteint par une épreuve sur sa personne, sur ses biens, sur ses enfants, sur ses proches ou un de ses amis, il doit alors patienter et il doit espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Et qui sont-ils ces endurants? Allah subhanahu wa ta'ala nous les a décrits dans le verset suivant. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés, c'est-à-dire ceux qui patientent, ceux qui sont endurants lors des épreuves. Et ceux-ci sont les versets 155 à 157 de la sourate Al-Baqara. Et il fait partie des épreuves qui touchent l'homme et sur lesquelles il doit patienter, ce qu'il subit sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il subit sur le sentier de l'apprentissage de la religion, ainsi que de sa mise en pratique, et ce qu'il subit sur le sentier du prêche. Tu dois faire face à ces épreuves. Tu dois faire face au regard des gens. Tu dois faire face aux réflexions qui pourraient être adressées. Et tu ne dois pas faiblir face à cela. Mais tu dois rester ferme sur ce sentier. Tu dois persévérer en étant convaincu de quoi? En étant convaincu que la bonne fin est pour la piété et que la bonne fin est pour les pieux. De la même manière, lorsque tu vois des gens de ton entourage commettre des péchés et des interdits, tu dois alors les conseiller avec science et sagesse et tu ne dois pas dire « ceci ne me regarde pas, ceci ne me concerne pas » ou encore « si je le conseille, il va mal le prendre » ou autre, mais tu dois conseiller. Tu dois conseiller, ordonner le convenable, interdire le blâmable et ce avec science et sagesse. Car le bon conseil entre nous, le fait de s'enjoindre le convenable et de s'interdire le blâmable, ceci fait partie des obligations qui nous incombent. Ceci est donc une explication concise de cette sourate et certains bénéfices tirés de celle-ci. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم » الشافعي, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah, qui est mort en l'an 204 de l'Hégire et qui est l'un des quatre imams. Al-Shafi'i rahimahullah a dit « Si Allah n'avait descendu comme preuve pour sa création que cette sourate, elle leur aurait suffi. » Ici le Cheikh rahimahullah, il mentionne cette parole de cet imam afin de s'appuyer sur les paroles des savants qui l'ont précédé. Car comme on l'a dit, les preuves, ce sont seulement les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles des savants, ce ne sont pas des preuves en elles-mêmes. Mais le Cheikh rahimahullah, il mentionne ici une parole d'anciens savants, de savants qui l'ont précédé afin de montrer qu'il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, mais que sur ces choses-là l'ont précédé d'autres savants avant lui. Et ceci est la meilleure des réfutations contre ceux qui accusent cet imam, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, d'être venu avec une nouvelle religion. Regardez ici, il nous mentionne la parole de qui ? De l'imam Shafi'i rahimahullah, un des quatre grands imams de l'islam. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah, il nous explique à travers cette parole que cette sourate, elle suffit comme argument. Pourquoi ? Pour que les gens sachent qu'ils doivent apprendre la science, la mettre en pratique, s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement l'endurance. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié dans cette sourate et il a exposé les causes du bonheur et les causes du malheur. Les causes du bonheur, c'est que l'homme, il se pare de ces quatre caractéristiques qui sont la science, la mise en pratique de cette science, y inviter les gens et le fait de patienter face aux persécutions sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu accomplis cela, que tu accomplis ces quatre choses et que tu te pares de ces quatre caractéristiques, tu seras alors dans le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il a clarifié cela et cette sourate, elle suffit pour comprendre cela. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans celle-ci par le temps que l'homme, c'est-à-dire tous les hommes, sont en perdition sauf ceux qui se parent de ces quatre caractéristiques. Et le sens de la parole de l'imam Shafi'i n'est pas que cette sourate est suffisante et que l'on pourrait se passer des autres sourates du Coran, mais ceci veut dire que cette sourate est suffisante pour connaître les causes du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Car celui qui lit cette sourate, qui est courte et concise, il saura que tout le bonheur et tout le gain et tout le profit, il est dans quoi ? Il est dans le fait d'avoir la foi, d'apprendre la science pour augmenter cette foi, de mettre en pratique cette science, de s'enjoindre la vérité et de s'enjoindre l'endurance. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il a mentionné ensuite la parole de l'imam al-Bukhari رحمه الله. L'imam al-Bukhari, qui est Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'imam des gens du hadith, la montagne de mémorisation, l'auteur du livre As-Sahih, qui est le plus authentique des livres après le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit l'imam Al-Bukhari, et il a intitulé un des chapitres dans son recueil de hadith authentique, chapitre « La science passe avant la parole et les actes ». Car une œuvre qui n'est pas basée sur la science, elle n'est pas profitable. L'œuvre qui est basée sur l'ignorance, elle ne profite en rien à son auteur. Au contraire, comme on l'a dit dans l'assise précédente, elle n'est que source de peine et de regret pour lui. Et ceci n'est qu'un égarement et il s'en mordra les doigts au jour de la résurrection. Il est donc indispensable quoi ? De faire précéder l'apprentissage de la science à la mise en pratique. Et tu ne dois pas, lorsque tu veux faire une chose, t'empresser de la faire sans connaître les règles liées à cette chose. Tu veux faire un commerce, tu dois apprendre les règles liées à ce commerce. Tu souhaites te marier, tu dois apprendre les règles liées au mariage. Et ainsi de suite, la science passe avant la parole et les actes. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils font les choses avec ignorance. Puis ils se retrouvent dans des problèmes et des conflits. Puis ensuite, ils font quoi ? Ils vont poser la question. J'ai fait ceci et cela. Le bon chemin et le chemin droit, c'est que tu poses la question avant d'entreprendre cette chose, avant d'entreprendre ton projet, avant d'entreprendre ton commerce, avant d'entreprendre ton mariage, tu dois poser les questions et apprendre la science liée à ces sujets. Car la science passe avant la parole et les actes. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon la traduction des sens rapprochés, sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et implore le pardon pour ton péché. Et sa parole, et implore le pardon pour ton péché ici, c'est l'œuvre. Il a donc commencé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset par ordonner quoi ? La science. Il a dit fa'alam, sache donc. C'est-à-dire apprends la science avant l'œuvre. Car l'œuvre, si elle est basée sur l'ignorance comme on l'a dit, elle ne profitera en aucun cas à son auteur. Il est donc indispensable que l'homme, il commence par l'apprentissage de la science en premier lieu, puis ensuite qu'il mette en pratique cette science et ceci est la base. Nous avons donc terminé la première partie de l'introduction de ce livre et on commencera la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, la deuxième partie, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا Et on se retrouve inshallah ta'ala dimanche prochain à la même heure. Jazakum Allah khayran.